Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une jeune femme passionnante, car passionnée par sa passion. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Zineb Ben Abdelrazek, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Zineb ?
Très bien, merci. Et toi ? Comment ça va ?
Très heureuse d'interviewer la jeune femme que tu es. Et ça me fait plaisir. Je suis toujours très heureuse d'avoir des jeunes femmes dans cette communauté des femmes d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, au départ, je pensais que ça serait que pour, on va dire, fin 30, quadra, allez, quinquagénaire, mais finalement je me retrouve avec des jeunes femmes de la vingtaine, des femmes pleines de potentiel et surtout pleines de maturité, de partage et d'envie d'aider l'autre. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que ça donne vraiment confiance dans cette nouvelle génération qui est souvent malmenée en fait. Et très souvent, les jeunes femmes que je reçois me disent « mais en fait, il suffit de nous écouter et vous verrez tout ce qu'on a comme potentiel à donner ».
C'est complètement ça.
Ouais.
Vraiment.
Alors, justement, est-ce que tu trouves que ta génération est malmenée ? Toi, tu es née juste avant l'an 2000. Juste avant
oui,
l'an
2000. Oui, en novembre en plus. Donc, vraiment. Alors, effectivement, en fait, quand on est dans des milieux professionnels, on se rend compte qu'en tant que jeune, on a beaucoup de choses à apporter, autant que les générations qui sont au-dessus de nous.
Ouais.
Et donc, à la fois, nous, on est plein d'idées, plein de compétences nouvelles parce qu'on est dans un monde qui change beaucoup, qui évolue énormément et que pour rester à la page avec tout ce qui se passe, comme par exemple l'intelligence artificielle, il faut être en constante évolution.
Mmh.
Et donc, quand on vient allier, nous, nos compétences de jeunes et aussi nos idées de jeunes, à des idées, on va dire, qui sont plus matures, mais en fait, ça permet d'être, on va dire, plus complet.
Mmh.
Et effectivement, oui, on est malmené parce qu'on est encore... En fait, il y a toujours cette idée de hiérarchisation et surtout quand on est une femme, on se sent vite vulnérable et c'est tout un travail de savoir s'imposer.
Oui. Alors, moi, je suis née 19 ans avant toi. Okay.
Ok,
littéralement, quand j'ai vu la date de naissance, c'était l'année de mon bac en fait, on va dire 18 ans avant toi, c'était l'année de mon bac. En 1999, Zineb naissait et moi je venais d'avoir mon bac. Et en fait, quand tu parles de ça en fait, j'ai l'impression qu'on a les mêmes problématiques à 18 ans d'écart. Quand tu dis, en fait, il faut allier ses compétences à cette flexibilité face à ces nouvelles technologies, savoir les utiliser, je suis dans le même cas de figure, en tant que femme, 18 ans, ton aînée. Par rapport au milieu professionnel, en tant que femme, justement, comment se faire sa place, comment être respectée, comment être vue comme une professionnelle et non pas comme une femme, tu en parles. Et justement, ça m'a étonnée, en fait. Je me suis dit, quand même... À 18 ans d'écart, on parle de la même chose.
Ça montre que les problématiques, elles sont toujours là.
Ah,
et que,
ouais.
En tant que femme dans le milieu professionnel, on a toujours notre... En fait, ce n'est pas du tout de l'acquis de dire qu'on est dans une position qui est simple et que l'équité est là. Mmh. En réalité, pas du tout. J'ai une expérience professionnelle où, en tant que jeune, je sentais vraiment qu'il y avait une grande différence de traitement. Après, je comprends parce que
pardon.
L'expérience n'est pas...
Alors, Zineb, traitement de par ton âge ou de par ton genre ?
Les deux.
D'accord.
Et c'est normal au niveau de l'expérience, on va dire, par rapport à l'âge. On peut être un peu réticent, mais après, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est une couche au-dessus, qui est celle de la femme. Parce que si j'étais peut-être un homme avec autant d'années d'expérience, ben, j'aurais pas eu... J'aurais eu moins peur de parler plus fort et de m'imposer.
Mmh.
Et après, en fait, ça passe par changer son style vestimentaire.
Oui, absolument.
Je pense aussi que, après moi, je pense que c'est un trait de caractère. Je suis peut-être un peu trop sympathique.
Mmh.
J'aime bien faire un peu des blagues. J'aime bien mettre une bonne ambiance. J'aime beaucoup les ambiances de travail qui sont détendues. Même si le professionnalisme suit, bien sûr. Mais pour moi, c'est important de travailler dans un espace qui est agréable. Et donc, en fait, on associe vite une femme qui est jeune et qui utilise un peu l'humour à quelqu'un qui n'est pas compétent, alors que ça n'a rien à voir.
Mmh, absolument. C'est au contraire, c'est de l'empathie pour les autres. On a envie d'offrir aussi un cadre de travail agréable aux autres.
Complètement.
Alors, Zineb, née justement en 1999... Ensuite, départ en France après le bac pour des études. Et en fait, ce que tu fais, c'est des études d'architecture.
Exactement. Alors, les études d'architecture, c'est quelque chose que, en fait, quand on grandit au Maroc, on a l'impression que les études d'architecture et devenir architecte, c'est vraiment un très beau métier. On a l'impression que c'est la voie vers la réussite, etc. Mais une fois qu'on arrive dans le milieu professionnel, on se rend compte que on devient surqualifié pour le travail de salarié. Ce qui se passe dans les agences d'architecture, c'est que souvent, ce n'est que la personne qui est en charge de l'agence
Oui.
qui, elle, on va dire, gagne de l'argent. Mais maintenant, les salariés sont tous architectes et ne sont plus dessinateurs-projeteurs. Donc, tu te retrouves souvent surqualifié pour le travail que tu fais.
Alors
Et
qu'au
donc,
début, tu pensais en fait, en devenant architecte, tu allais directement devenir ta propre boss.
bah, pas vraiment, parce qu'évidemment qu'il faut passer par la case. Enfin, évidemment, c'est ma réalité. Moi, il y a des gens qui passent directement
Ouais.
à l'entrepreneuriat et bravo. Mais pour moi, c'était important de passer au moins un petit bout de temps. J'y ai passé même pas 2 ans dans le salariat. Et en fait, j'ai réalisé que ça dépend des expériences professionnelles. Par exemple, j'en ai eu une où j'ai appris en 7 mois ce que j'ai pas appris en un an dans une autre expérience professionnelle. Mais on se rend compte que eh ben, c'est difficile d'évoluer. Tant professionnellement, tant en tant que dans les compétences, tant dans sa carrière, en fait. Après, je me suis dit, il vaut mieux investir sur soi-même que rester à investir dans une agence. Parce qu'en fait, quand tu donnes ta force de travail à quelqu'un, VS, quand tu peux la donner à toi-même, ta courbe d'évolution n'est pas du tout la même.
Absolument, absolument. Alors, je suis impressionnée par cette génération, encore une fois, 18 ans d'écart. Il y a des prises de conscience que nous avons à des âges différents. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes femmes que vous êtes, cette génération-là, et elle m'impressionne vraiment, prennent conscience aussi rapidement de cet élément-là, en particulier?
Je pense qu'on a beaucoup de chance dans le sens où on a accès à beaucoup d'informations et on a accès à beaucoup d'espaces de socialisation où justement il y a beaucoup de partage et il y a de moins en moins de tabous. Donc on arrive à parler de certaines choses auxquelles on n'arrivait pas à se référer, je pense, avant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a certaines prises de conscience par rapport aux questions féministes, par rapport aux questions entrepreneuriales et à des sujets divers et variés.
Alors, études d'architecture, tu passes 2 ans pratiquement dans un cabinet en France même?
Non, pas du tout. Alors, après mes études d'architecture, en France, comment c'est fait? On a une licence pour 3 ans, puis un master 2 ans. Et après, on a un diplôme certifiant qui s'appelle l'habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Et c'est ce qui permet de s'inscrire à l'ordre des architectes pour pouvoir être son propre boss, signer ses plans, etc.
Ok.
Donc après mon master, j'ai directement enchaîné avec ça. Et donc, je cherchais un boulot à Paris. J'ai eu 2 entretiens. Les deux ont débouché sur 2 jobs. Et j'étais vraiment dans un état d'esprit où je me disais, mais ça, c'est vraiment pas fait pour moi. Et là, je vais dans les spams et je me rends compte que j'ai une réponse pour un mail, une demande, et c'était un cabinet qui était entre Paris et Cotonou. Je savais même
Au
pas où est-ce que
Bénin.
c'était Cotonou, au Bénin
Ouais.
exactement. Et je passe un entretien et ils me disent, oui, on travaille avec Francis Quéré. À l'époque, c'était il y a que 2 ans, mais à ce moment-là,
Oui, je préfère
Francis
à ce moment-là
Quéré.
parce que si tu dis à l'époque et dis il y a 2 ans,
Ouais. Alors que moi, on
qu'est-ce
est. Ouais. Mais donc
que
à ce moment-là, Francis Quéré venait de gagner le prix Nobel d'architecture.
je vais
Et donc, c'était vraiment l'appât. Et donc, directement, 3 semaines plus tard, j'étais chez eux en train de travailler derrière mon ordi. Et
Au
c'était
Bénin.
une expérience extraordinaire, complètement.
Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui a fait que tu ne sois pas resté plus longtemps avec eux? Justement, quand tu parlais des 2 ans maximum en cabinet.
C'est difficile de vivre loin de sa famille et c'est vraiment vivre au Bénin, c'est génial. Aujourd'hui, je repartirai vivre avec plaisir.
Oui.
C'est juste qu'il n'y avait pas les conditions pour rester sur du long terme.
D'accord. Mais professionnellement, c'était nourrissant.
C'était génial. J'ai eu l'occasion de travailler sur la version de l'UM6P à Cotonou,
D'accord.
à Ouidah, au Bénin. C'était génial.
Ok. Alors, en 2023, le 8 septembre, il y a aussi une prise de conscience chez toi avec malheureusement le séisme de Marrakech.
Oui, c'était le 8 septembre, je me rappelle avoir fait un vol Marrakech-Paris. Et justement, le soir même, c'était vraiment, je pense, 2 semaines qui étaient très intenses émotionnellement, où on voyait tous les architectes se déployer, tous nos proches voir, enfin, donner tout ce qu'ils pouvaient. Et en étant loin, c'était en fait une motivation de plus pour en faire le maximum.
Alors, pardon, juste pour bien comprendre. Le 8 septembre, tu étais à Marrakech, mais tu es rentrée en France.
Oui, le jour même.
Le jour même. Et le soir, à 23h, il y a eu le séisme.
C'est ça.
Ok. Et donc, toi, tu étais loin à ce moment-là et tu vois la mobilisation. Et qu'est-ce qui se passe en toi ?
De l'incompréhension, beaucoup de tristesse. Et aussi, on ne sait plus quoi faire. On est perdu. On se dit comment on peut aider autour de nous. Mmh. Au début, beaucoup d'incompréhension parce qu'étant de Marrakech, on commence à avoir peur parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe à Marrakech.
Parce que tes parents y habitent.
Exactement. Après, on se rend compte que c'est beaucoup plus localisé au niveau des régions qui sont montagneuses. Et après, à ce moment-là, c'est la prise de conscience en regardant les vidéos, les photos, en voyant les infos. Et après, il y a toute une chaîne de photos et de vidéos qui ont été transférées. On se rend compte des dégâts. Et après, il y a toute la question patrimoniale qui vient dans cette réflexion.
En tant qu'architecte aussi.
Exactement, exactement. Mmh. Bah, en fait, on est le métier qui devrait être le plus sollicité. Et en fait, l'habitat, le foyer, le toit, c'est ce qu'il y a de primordial pour qui que ce soit. Et quand on a, en fait, en tant qu'architecte, on a la chance de se rendre compte à quel point un habitat, c'est primordial dans la vie de chacun. Et en fait, perdre chez soi, c'est se perdre. Et
c'est ça, exact. C'est sa dignité, en fait, son habitat.
Exactement.
C'est sa dignité, absolument. À ce moment-là, la jeune femme que tu étais et que tu es toujours, à ce moment-là, tu avais 24 ans, c'est ça ? 23, 24 ans ?
Oui, c'est ça, 24.
24 ans. Tu prends une décision importante, tu décides de rentrer ?
Oui, alors, au bout de quelques mois à Paris, je travaillais. En parallèle, j'ai fondé une asso avec des amis à moi. Et donc, on travaillait à distance sur les questions du séisme, de reconstruction. On essayait de faire un maximum à distance, mais aussi sur site. Et après, on a une chance. On nous contacte pour faire un boulot de consultante. Et après, je me rends compte que j'ai plus de travail dans l'asso que dans mon travail.
L'asso, c'est l'association.
Exactement, au niveau de l'association.
Okay.
Et à ce moment-là, justement, mon boulot ne me plaisait pas du tout. Ça se passait très mal. Et après, je me suis dit, mais alors pourquoi rester ? Ça n'a aucun sens.
Donc, en fait, ça s'est mal passé au final au Bénin ?
Non, à Paris.
À Paris,
après,
ok.
Après le Bénin, c'était Paris.
D'accord, ok. Et donc, tu t'es dit pourquoi rester ?
Exactement, ça n'avait plus aucun sens, en fait. Mais depuis le départ, depuis... Au Bénin, je travaillais avec des gens qui étaient très motivés, qui étaient en train de construire leur pays. Oui. Il y avait un sens, un dévouement, un engagement envers leur travail qui était impressionnant. Alors qu'à Paris, on était dans un monde qui était tellement sur le capitalisme et sur la surconsommation, il n'y avait personne qui prenait de la hauteur sur les vraies priorités de la vie. Et donc moi, je me sentais complètement décalée par rapport à ce qui m'entourait.
Alors, ta motivation initiale pour devenir architecte, c'était quoi ?
Et bien justement, je me pose énormément cette question parce que de base, ma passion, on va dire que ce n'est pas vraiment l'architecture. Ma passion, c'est l'autre, depuis toujours. Depuis que je me rappelle, je disais à mes parents, moi, quand je vais grandir, mon métier, ce sera d'aider les gens. Et personne ne me... Enfin, tout le monde me rigolait au nez. Il me disait, mais Zineb, tu sais que tu dois gagner de l'argent. Aider les gens, c'est pas possible dans un... c'est pas ton quotidien, ça peut pas être ton métier d'aider les gens. J'ai un amour un peu très intense pour le Maroc. Je suis très fière d'être marocaine, je suis très fière de notre patrimoine, de qui on est, notre identité. Et donc, ce qui me passionne vraiment, c'est ça. Et aujourd'hui, je comprends que l'architecture, c'était un moyen. Et j'ai beaucoup de chance d'être un profil technique. Ça permet d'avoir une vision qui est très différente que d'être un profil général. Et donc, pour moi, l'architecture, c'est vraiment un très bon moyen de comprendre la société et de voir la ville et les espaces d'une certaine manière qui, elle, on va dire... plus technique et professionnelle.
Donc, en fait, l'architecture, tu l'as démarré pour aider les autres ?
Exactement.
Ok. Pourquoi tu n'as pas choisi une carrière de médecine, par exemple? Parce que
je suis assez phobique des espaces où il y a des médecins, tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est maladie. Je suis trop sensible pour ça. Ça m'impacte directement.
Ouais. Ouais. Mais quand je t'écoute maintenant, j'ai l'impression que tu as envie de laisser tomber l'architecture.
Alors, non, je n'ai pas envie de laisser tomber l'architecture parce que je trouve que ça me permet de rencontrer beaucoup de monde, que ça me permet de partager mon expertise et qu'elle soit utile. Donc, pour moi, en réalité, j'ai atteint le but de pouvoir aider les gens à travers mon métier. Donc, ça, c'est assez... j'arrive à le faire. Mais en parallèle, c'est vrai que j'ai un autre projet qui, lui, définit beaucoup plus ce que j'aime.
OK. Alors, en même temps, avec le séisme, tu as fait partie de cette association. Il y a eu une mobilisation. Vous avez aidé des gens en tant qu'association. Tu as aidé des gens. Vous avez fait quoi exactement?
Alors,
grâce à l'architecture, en fait.
Très bien. On est en train de réparer 10 maisons dans la province de Taloudent. Ce projet commence en avril. On est en phase d'études. Donc ça, c'est vraiment notre action clé. Et après, en parallèle, on va construire dans des communes sinistrées un hammam et une salle des associations.
OK. Alors, j'ai quand même une petite question que les gens pourraient se poser naturellement. Pourquoi ça a pris autant de temps? Ça s'est passé en septembre 2023, on est en janvier 2025 et le projet ne démarre qu'en avril.
Complètement. Je pense que c'est la frustration de tout le monde. C'est que pour mobiliser les fonds, pour mobiliser les études, pour trouver les intervenants, pour sélectionner les maisons, pour savoir où on travaille, pour se créer en tant qu'association, pour se structurer administrativement, ça prend énormément de temps. Et en fait, nous, on a fait le choix de s'intéresser à un endroit où les gens veulent construire en matériaux locaux. Il faut savoir que d'octobre, novembre à mars, avril, on ne construit pas parce que il y a de la pluie. Et donc, c'est pour ça qu'on commence qu'en avril.
D'accord, OK. Et en fait, ce n'est pas frustrant de se dire les gens sont dans un besoin et puis nous, on n'arrive pas à avancer très vite?
C'est frustrant, mais on n'a pas le choix. On est assez démunis face à cette situation.
OK. Alors, ton rêve idéal pour aider les gens, Zineb Ben Abdelazer, ça serait quoi? Ça serait comment, en fait? Ça serait quel moyen?
Fournir un quotidien qui est léger à vivre. Mais après, concrètement, est-ce que ta question, c'est dans le house?
Dans l'absolu, en fait. Dans l'absolu. Dans l'absolu pour toi. Quand tu dis j'aime, moi, en fait, je me rends compte que ma mission de vie, c'est aider les gens. Ça veut dire quoi, aider les gens pour toi?
De tchlq sa'ada. En une phrase, ce serait ça. De créer des moments de vie, des moments où on sourit et après apporter au maximum à tous les citoyens marocains une vie qui est géniale et qui est légère. En fait, j'ai grandi, je me permets de dire ça, mais j'ai grandi dans un milieu qui est privilégié et j'ai toujours grandi avec la responsabilité de celle des autres. Je me dis, si moi j'ai la chance de vivre de cette manière, c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, j'aimerais au maximum pouvoir partager et redistribuer ce que moi j'ai eu la chance d'avoir.
Tu es l'aîné de ta famille, de ta fratrie?
Pas du tout, je suis l'enfant du milieu.
C'est qui cherche sa place?
Exactement.
Est-ce que c'est vrai qu'elle cherche sa place, la deuxième? Est-ce que c'est vrai?
En fait, c'est 3 sur 4.
Ouais.
Mais oui, je pense que je pense que c'est un peu la théorie de l'enfant du milieu. On a toujours trop de choses à prouver parce qu'on vient en sandwich. Et moi, j'existe. Et c'est ma façon d'exister, en quelque sorte.
Ouais. Est-ce qu'on dit que tu es différente de tes sœurs?
Beaucoup.
Ouais.
Je suis un peu le vilain canard, vilain petit canard de base. En fait, j'ai même des distinctions physiques qui sont très différentes. Donc, c'est assez drôle. Et aussi, je pense que c'est ce qui me définit et c'est ce qui a, on va dire, construit mon identité.
Et là, tu as choisi de rentrer définitivement au Maroc?
C'est ça.
Et donc là, maintenant, tu es revenue chez les parents.
Oui.
Alors, ça fait quoi de revenir chez ses parents après, allez, on va dire, après 6 ans de... 7 ans.
Alors, j'ai beaucoup de chance. J'ai une très belle relation avec mes parents. Et justement, je rentrais à Marrakech chaque 2 mois. J'ai une empreinte carbone qui est vraiment pas des moindres, on va dire.
Ok.
Donc, je suis très heureuse de pouvoir habiter à Marrakech et en fait, je me sens complètement alignée parce que malgré le fait qu'on évolue dans une société qui se veut de plus en plus individualiste, je pense que les systèmes familiaux qu'on a actuellement sont très importants. Et par exemple, on a l'habitude de générations précédentes où les enfants habitaient avec les parents jusqu'à ce qu'ils prennent leur envol. Et je pense que c'est un système qui me convient beaucoup. Mmh. Et après, vivre au soleil, je pense que ça n'a pas de prix, et surtout chez soi. Mmh.
Alors, en même temps, ce qu'on me dit souvent, c'est que c'est compliqué de revenir. Pourquoi ? Parce que pendant des années, on a pris l'habitude de vivre seul. Et vivre seul, ça veut dire ne rendre de compte à personne et claquer la porte quand on veut et dormir quand on veut, se lever quand on veut et manger ce qu'on veut, etc. C'est détail du quotidien. Par contre, quand on revient chez ses parents, on revit en fait en communauté, on revit selon les règles et les codes de ses parents, les règles et les codes de leur foyer, de leur maison. Est-ce que ça c'est compliqué justement à justement se réadapter?
Je pense que c'est beaucoup de travail parce que quand on n'habite pas pendant une longue période avec ses parents, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent et que pour eux, on reste toujours leur enfant. Donc pour eux, je pense que j'ai toujours 12 ans.
Oui.
Mais aujourd'hui, j'en ai 25. Mais donc il y a ça d'une part, mais vivre en communauté, c'est prendre sur soi, c'est passer du temps avec l'autre même si son verre est vide, c'est donner, c'est rendre service. Et c'est quand même énormément d'énergie. Après, je pense que ça ne convient pas à tout le monde. Et donc, il faut vraiment faire attention si on ne se voit pas réhabiter avec ses parents parce que ça peut être très violent émotionnellement, surtout si on a besoin de son intimité. Mm. Et après, pour moi, honnêtement, je suis très reconnaissante parce que c'est vraiment une chance de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat en habitant chez ses parents.
Ses parents, ouais.
Beaucoup plus facile. Et donc, il faut juste être... Moi, je pense que c'est ça le plus gros challenge, c'est être soutenue parce que mes parents, j'ai quand même un métier qui est assez particulier. Pour eux, si j'étais en tant qu'architecte, j'allais faire des villas, gagner plein d'argent et bosser pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Mes parents ne comprennent pas que les bénéficiaires de ce que je fais, ce n'est pas des gens qui ont des moyens. Mais donc, c'est vraiment ça pour moi, c'est être entourée d'une famille qui soutient ce qu'on fait parce que sinon c'est très difficile. Mmh.
Alors aujourd'hui, Zineb a 25 ans. Tu es qui exactement ?
Je dirais que je suis un enfant, une adulte, une adolescente. Je dirais que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et après qui croit en ses rêves et qui croit en ses convictions. Je pense que ce qui me définit le plus, c'est l'amour que j'ai pour Marrakech et pour le Maroc, et pour les Marocains surtout, de manière générale. Et j'aimerais au maximum redonner tout ce que j'ai eu et le partager.
Zineb Ben Abdelrazek, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Yasmine.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.